le 6-9 du week-end sur France Inter.
8h10, votre invitée Karine Bécard, alors que s'ouvre aujourd'hui à Tunis le congrès mondial des écrivains de langue française, eh bien vous recevez l'écrivaine Leïla Slimani. Elle est la représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie.
Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez participer pendant tout le week-end au congrès mondial des écrivains de langue française en tant que présidente du comité littéraire. Cela va se passer pendant 2 jours, aujourd'hui et demain à Tunis. C'est le tout premier congrès mondial de ce type qui réunit donc des romanciers, des essayistes, des poètes, bref des auteurs francophones venant bien sûr de tous les continents. Alors il existe déjà, tout le monde ne le sait peut-être pas, des états généraux du livre en langue française. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire, Leïla Slimani, de créer ce nouveau rendez-vous, ce rendez-vous supplémentaire ?
Bien, quand le président de la République m'a proposé d'être sa représentante personnelle pour la francophonie, je dois avouer que ma première réaction, ça a été un peu une sorte de grincement, parce que le mot francophonie évoquait pour moi des choses un peu ambiguës, à la fois des choses positives, parce que je suis née dans une famille francophone, francophile, dans un pays aussi qui a toujours assumé
ça. Vous êtes franco-marocaine,
absolument,
on va le rappeler.
Voilà, j'ai grandi à Rabat, au Maroc, dans un pays qui a toujours assumé aussi cette francophonie et cette francophilie. Et en même temps, par exemple, le terme écrivain francophone, la francophonie institutionnelle, porter des relents qui ne m'étaient pas forcément très sympathiques. Et j'ai immédiatement dit au président de la République, je veux bien le faire, mais à condition aussi qu'on parte sur une idée de refondation, qu'on commence à regarder vers l'avenir et qu'on se pose des vraies questions.
Et ça refonde alors, ce
voilà,
congrès mondial est là pour
c'est
ça.
Vraiment, et je me suis dit, mais qui peut faire ça? Et évidemment, pour moi, ce sont les écrivains qui sont les mieux placés pour faire ça, puisqu'ils vivent avec cette langue tous les jours, puisqu'ils sont aussi, ils viennent de 5 continents différents, de cultures différentes, de religions différentes. Ils se heurtent à cette langue française avec chacun leur héritage et leurs différents passés. Donc il m'est apparu absolument essentiel de les entendre, d'être à leur écoute pour imaginer l'avenir de cette langue française et de ce mot francophonie.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que du coup on a envie de vous la poser cette question-là. Être un auteur francophone aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Ça suppose quoi?
Bon, déjà je ne suis même pas sûre qu'il faille dire auteur francophone. Moi j'aime bien dire écrivain de langue française parce que ce mot francophone, il est peut-être justement trop galvaudé, trop porteur de cette idée qu'il y a eu pendant très longtemps. Les auteurs francophones vivaient dans une sorte de périphérie. Il y avait l'auteur français qui était au centre, qui était l'auteur parisien, publié par les grandes maisons, et les auteurs francophones voilà, qui étaient autour et qui venaient plus ou moins d'une sorte de magma entre Haïti, le Maroc, le Sénégal.
Il y avait un petit relan colonisateur.
Un petit relan colonisateur, et puis surtout cette impression que l'auteur francophone sera de toute façon moins important que l'auteur français. Or, moi, mon idée, c'est que l'auteur français est un auteur francophone comme les autres. Nous sommes tous sur un pied d'égalité parce que nous sommes tous unis par cette langue. Je dirais que les écrivains de langue française, ce qui est absolument merveilleux, c'est que ce sont d'abord des écrivains qui viennent du monde entier. Ce sont des écrivains qui ont créolisé la langue française, qui la font cohabiter avec beaucoup d'autres langues.
Vous reprenez ce terme-là de créoliser?
Ah oui, bien sûr.
C'est le mot de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas lui-même l'utilise aussi. Enfin, c'est celui des bancs glissants, pardonnez-moi.
Alors là, ça n'est pas le mot de Jean-Luc Mélenchon. Et alors je suis tellement triste ces politiques abîment ces idées si belles, abîment cette langue française si belle par des manipulations démagogiques. Donc voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Donc cette langue, elle s'est nourrie de l'extérieur. Et puis d'un coup, c'est comme si on voyait, vous savez, c'est comme la révélation photographique. On voit ressortir dans cette langue française les apports de l'arabe, de l'espagnol, du créole, même de l'anglais. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que cette langue française, elle est à notre image. Diverses, multiculturelles, et c'est ça la littérature de langue française.
Quels sont malgré tout les auteurs francophones, j'hésite à utiliser ce mot-là vu que tout ce que vous venez de dire, mais qui vous ont nourri, vous, Leïla Slimani, et qui vous nourrissent peut-être encore aujourd'hui?
Oui, alors moi il y en a beaucoup, mais je vais citer en particulier Maryse Condé par exemple, qui est vraiment une auteure essentielle pour moi, alors qu'est une auteure
antillaise,
d'outre-mer, de Guadeloupe, qui est vraiment une femme qui a porté la langue française à des niveaux, je trouve, de poésie et là aussi de créolisation splendide. Il y a René Depestre, il y a Kateb Yassine. Ce sont des auteurs qui ont été extrêmement importants pour moi, Assia Djebbar, parce que aussi ils racontaient des mondes qui me semblaient proches dans une langue qui met à la fois une langue familière et une langue étrangère. Or pour un écrivain, c'est merveilleux de parler et d'écrire dans une langue qui reste pour vous ambigu, parce que vous êtes toujours dans un rapport de séduction avec elle. Vous la connaissez, vous l'aimez, et en même temps, elle n'est pas tout à fait vous. Il faut tout le temps que vous fassiez une sorte de pas vers elle.
Quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez par exemple lycéenne au lycée français à Rabat, je crois, au Maroc, est-ce que vous lisiez des auteurs francophones ? Est-ce que vous aviez cette conscience-là déjà ?
Pas vraiment. Je lisais en français, mais je n'avais pas, ce qui est d'ailleurs le cas, je pense, souvent quand on est adolescent, je n'avais pas conscience de en quelle langue l'auteur écrit tout de suite. Par exemple, pour moi, Dostoïevski écrivait en français. Je n'avais pas, par exemple, la conscience de la traduction. Il m'a fallu grandir et mûrir. Mais et d'ailleurs, ça, c'est très important. C'est un pas qu'on fait quand on découvre la littérature, de se mettre à comprendre aussi que la traduction, c'est ça qui nous donne la possibilité de connaître des textes. Et le congrès des écrivains en langue française sera aussi un congrès qui va valoriser la question de la traduction, parce qu'il ne s'agit pas seulement de défendre la langue française, mais de défendre la diffusion de ces œuvres partout dans le monde, et donc de rendre hommage aussi à nos grands traducteurs, notamment nos grands traducteurs de l'arabe, puisque nous partons dans un pays arabophone, la Tunisie, et il s'agira aussi de parler de ces traducteurs qui malheureusement souvent sont très peu payés, peu valorisés, et il y a très peu de traductions malheureusement aujourd'hui du français vers l'arabe et inversement.
Alors vous parliez de la Tunisie, Laïla Slimani, ce congrès mondial effectivement est organisé à Tunis. Quel regard est-ce que vous portez sur la situation politique en Tunisie ? Le chef de l'État s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis 2 mois, il les a même encore très récemment renforcés. Est-ce que vous et tous les intellectuels que vous réunissez pouvez faire comme si cette situation-là n'existait pas ?
Oh non, je ne crois pas qu'on fera comme si ça n'existait pas, d'autant que nous aurons beaucoup d'intellectuels tunisiens. D'abord moi, je ferai preuve d'un peu d'humilité, c'est-à-dire j'écouterai mes amis écrivains tunisiens qui sont sur place et qui m'expliqueront. C'est un président qui dès le départ a dit qu'il respecte la loi, qu'il est lui-même professeur de droit constitutionnel. Donc je pense qu'on est en droit d'attendre à ce qu'il soit de la plus grande rigueur possible lorsqu'il s'agit du respect de la loi. Donc je poserai effectivement les questions à mes amis tunisiens pour savoir ce qu'il en est.
Je voudrais vous poser une toute dernière question, Laïla Slimani. La très probable candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle est-elle un mal nécessaire pour la vie politique française ?
Non, je vois pas pourquoi on a besoin d'un mal nécessaire. Non, je crois pas qu'il faut être dans ces visions pessimistico-bizarres. On peut être aussi... Je trouve que c'est ça peut-être qui est dommage dans la vie politique française, même dans la vie médiatique française. Je trouve qu'il y a beaucoup, ces dernières années, beaucoup de noirceur, beaucoup de pessimisme. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de plus positif, de plus... Justement, je reprends cette phrase, je crois que c'est Marie Scondé qui dit ça, l'espérance c'est du courage. Être optimiste c'est une forme de courage aussi. Et moi, j'attends ça des hommes politiques, c'est qu'ils soient courageux. Mais être courageux, c'est aussi mettre de la lumière, c'est aussi avoir de l'espoir. Pourquoi on a toujours besoin d'aller au fond du caniveau pour se faire peur, pour aller regarder toute la laideur du monde et de la pensée. Non, moi j'espère au contraire que cette campagne va faire surgir des figures lumineuses et un discours lumineux sur la France, qui est un pays qui a tellement de chance et tellement de potentiel que c'est vraiment dommage d'être constamment dans cette noirceur.
Merci Laïla Slimani.
Merci à vous.
Alors je précise que ce congrès mondial des écrivains de langue française peut être suivi depuis la France grâce au site internet Étonnant Voyageur qui retransmettra donc en direct tous les débats. Je vous souhaite un excellent week-end.